Je m'en vais, mais il reste, réjouissez-vous. Est-ce que cela vous est déjà arrivé, peut-être, de vous dire, si seulement Jésus pouvait être là avec moi, maintenant, présent physiquement, à mes côtés, comme au temps des disciples, je pourrais parler avec lui, face à face, je pourrais écouter ses enseignements, peut-être dans la maison de Lazare, avec Marthe et Marie. Je pourrais lui poser toutes les questions que j'ai. Je pourrais lui partager mes plus grands soucis et fardeaux. Ou peut-être juste je pourrais le voir, le connaître et avoir une relation personnelle avec lui. Mais imaginez un instant ce que cela a dû être pour les disciples. Ils ont vécu cela pendant 3 ans auprès du maître. Mais voilà que Jésus va les quitter. On est dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14. L'arrestation de Jésus approche, est imminente. Il rappelle à nouveau aux disciples qu'il est sur le point de partir, de s'en aller au ciel auprès du Père. Les disciples, eux, ne comprennent pas. Dans leur tête, le Messie devait venir sauver Israël de l'Empire romain. Mais Jésus, lui, il parle de son départ. Et cette idée remplie de tristesse le cœur de ses disciples. Ils préféraient qu'il reste avec eux. Mais Jésus leur partage une promesse qui, selon lui, devrait plutôt les réjouir. Et je vous propose ce matin de découvrir ce que Jésus dit à ses disciples et ce qu'il nous dit à nous aussi aujourd'hui. D'abord, on va faire cette simple prière. Notre Père, merci parce qu'on peut t'appeler notre Père. Par l'œuvre de Jésus à la croix. Et Seigneur, on te prie ce matin que tu nous donnes un cœur pour ta parole et une parole pour notre cœur. Amen. On va lire notre texte ce matin dans Jean au chapitre 14, des versets 15 à 31. Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. » Et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. Il n'y a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Nous allons voir ce matin 3 raisons de nous réjouir de l'envoi de la venue du Saint-Esprit et ce que cela peut changer dans notre vie de prière. On a déjà lu le texte. La première raison qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous donne l'accès à l'intimité avec Dieu, notre Père. Alors que Jésus est sur le point de partir, il fait cette promesse aux disciples. Regardez avec moi au verset 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. Le Père vous donnera un autre défenseur. Un autre défenseur. Le défenseur, c'est à la fois celui qui marche à côté, qui encourage, mais aussi celui qui prend ma défense, un peu comme un avocat. Et si Jésus ici précise que le Père enverra un autre défenseur, il ne parle pas d'un autre dans le sens différent, mais justement un autre défenseur du même type, de la même nature. Un autre défenseur qui va remplacer Jésus, d'une certaine manière. Parce que jusqu'à présent, Jésus a joué ce rôle de défenseur dans la vie des disciples. Pendant 3 ans, il a encouragé, édifié, enseigné, repris, corrigé, formé les disciples. Mais ce ministère de Jésus sur terre, de manière humaine, terrestre, touche à sa fin. Jésus s'en va auprès du Père, prépare une place dans sa maison pour tous les disciples. Et pour devenir là-haut, d'ailleurs, l'apôtre Jean le dit dans son épître 1 Jean chapitre 2, pour devenir notre défenseur auprès du Père. Jésus s'en va, mais les disciples, qu'est-ce qu'ils aimeraient que Jésus reste, qu'il soit là, à leur côté, physiquement. Alors Jésus leur fait cette promesse. Il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Jésus va passer le relais au Saint-Esprit, cet autre défenseur, et c'est comme si Jésus disait aux disciples, « Je m'en vais, mais il reste. Réjouissez-vous. Je m'en vais, oui, mais il reste. Il va venir et il va rester éternellement. » C'est vraiment une raison de se réjouir, j'espère, pour nous ce matin. C'est un défenseur de la même nature que Jésus, mais qui a des différences aussi dans sa fonction. Par exemple, Jésus, en tant qu'homme, était limité. Il pouvait être à un seul endroit à la fois. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité géographiquement. Il peut être ici à Toulouse, il peut être en Côte d'Ivoire, il peut être à Paris, à Ouagadougou, à Moscou, à Londres, en même temps. Jésus pouvait marcher à côté des disciples, leur parler, c'est vrai, les voir, les enseigner, manger avec eux. Le Saint-Esprit, lui, il vient demeurer dans la vie de chacun des croyants, de manière personnelle et intime. Oui, on peut se réjouir car le Saint-Esprit permet une relation intime et privilégiée avec Dieu notre Père. Et c'est tellement clair dans le texte, et je vais vous le montrer. Regardez avec moi, au verset 16, on a ce verset qu'on a déjà cité, « Il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Au verset 17, « Vous le connaissez, il sera en vous. » Au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviens vers vous. » Jésus parle ici de sa résurrection parce qu'effectivement, les disciples vont à nouveau le voir une fois ressuscité. Mais quand il parle de ne pas les laisser orphelins, il parle bien aussi de sa venue par le Saint-Esprit. Au verset 21, « Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 23, « Nous viendrons vers lui, nous établirons domicile chez lui. » Waouh ! Peut-être on est trop habitué d'entendre ces vérités. En tout cas, pour les disciples, c'est une promesse qu'ils n'arrivent pas encore à saisir tellement elle est profonde. Jésus s'apprête à partir, à mourir, nous préparer une place dans la maison du Père. Mais entre-temps, alors qu'on attend son retour, on attend cette place dans la maison du Père, il nous promet sa présence aujourd'hui par le Saint-Esprit. Il nous promet une relation intime, privilégiée avec Dieu qu'on peut appeler notre Père, ici-bas sur terre, en attendant d'être dans sa maison face à face au ciel. Rappelez-vous au chapitre 14, au début de ce chapitre, ce que Jésus a dit aux disciples. Au verset 2, Jésus leur a dit, juste quelques versets précédemment, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Oui, Jésus va nous préparer une place, mais entre-temps, il vient demeurer en nous. Ici, quand Jean utilise le mot « demeure », dans la demeure de mon Père, au verset 2, c'est exactement le même mot qu'il utilise au verset 23 quand il dit Nous viendrons vers lui, nous établirons domicile, nous établirons demeure en chez lui. Dieu nous prépare une place, mais entre-temps, il vient demeurer dans nos cœurs. Alors qu'on attend sa demeure, il demeure déjà en nous. Il demeure déjà dans le cœur de tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ comme étant le Sauveur du monde. Alors, quelles conséquences pour notre vie de prière? Quelles implications pour notre vie de prière de savoir cela? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que notre vie de prière est caractérisée par notre intimité avec Dieu? Est-ce que c'est comme cela qu'on définirait ce qu'est même la prière? Car la prière est avant tout l'expression d'une relation intime avec Dieu, notre Père. C'est pour cela que Jésus enseigne aux disciples à prier notre Père. Pas pour réciter forcément cette prière, même si elle est belle à se remémorer et à apprendre et à réciter, mais surtout parce qu'il nous montre à qui on s'adresse quand on prie. On s'adresse à notre Père. Et c'est pour cela que ce n'est pas la manière dont on prie qui compte, mais la personne à qui l'on adresse nos prières. Ce n'est pas la manière dont on prie qui compte, mais la personne à qui l'on adresse nos prières, car la prière est avant tout l'expression d'une relation intime, privilégiée, aimante avec Dieu, notre Père. Parfois, malheureusement, la prière peut pourtant devenir dans nos vies quelque chose de bien religieux, non ? Alors c'est plus facile de le voir chez les autres que de le voir chez nous. Si la prière se limite juste à fermer les yeux, parler avec un certain vocabulaire, une certaine intonation de voix, très forte pour certains, très calme pour d'autres, dire « Seigneur » dans chacune de nos phrases et « Amen » pour terminer, si nos prières se limitent uniquement à cela, c'est bien triste. Ça aurait la forme de la religion. Mais ça en louperait totalement le cœur et même la raison d'être. Une vie de prière sans passion pour Jésus-Christ ne sera qu'une pratique religieuse qui ne porte pas de fruits. Une vie de prière sans communion avec le Père sera une série de belles prières comme il faut, mais n'ouvrira pas notre cœur à une plus grande intimité et connaissance intime de Dieu. Car la prière est la pratique de notre intimité avec le Père. Dans Jean chapitre 14, peut-être vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, on a vu le récit de cette femme samaritaine. Dès qu'elle a compris que Jésus était plus qu'un simple homme, connaissait sa vie intime et peut-être un prophète selon elle, elle lui pose cette question. Est-ce que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer Dieu ou est-ce que c'est à Jérusalem? Vous savez un peu le genre de questions superficielles qu'on pose quand on sent que la discussion va partir sur un terrain un peu trop sérieux et profond, au risque de dévoiler peut-être notre cœur à la personne avec qui on parle. Et Jésus lui répond, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu ne recherche pas des personnes qui prient avec obligation, par tradition, ou juste en suivant une série de rites pour leur donner une bonne conscience. Ah oui, je prie. Non. Dieu recherche beaucoup plus que ça. Il recherche mon cœur, il recherche ton cœur. Il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jésus dit, verset 23, « Moi et le Père, nous viendrons vers lui, nous établirons domicile, demeure chez lui. » La prière, vous savez, j'ai pensé que peut-être ça pouvait nous aider à illustrer un peu. La prière, c'est aussi simple que de vivre une relation avec quelqu'un. On s'assoit parfois, boire du café, du thé, de l'eau, peu importe ce que vous préférez. Je connais même des gens qui boivent de l'eau chaude sans rien dedans. J'ai toujours pas trop tout compris, mais... Quand on passe du temps avec quelqu'un, on n'est pas forcément dans un formalisme. Vous comprenez ? On passe du temps pour apprendre à connaître la personne avec qui l'on est. Si la promesse que Jésus nous fait est vraie, et on croit qu'elle est vraie, c'est pour ça qu'on se réunit ce matin, On croit qu'il vient faire domicile en nous. Ça veut dire que Dieu n'est pas lointain. Même quand mes émotions me trompent et me font croire qu'il est loin, il est là, il est présent, il est en moi, il est à mes côtés. Il m'entend, il m'écoute, il me parle. Ça veut dire qu'on peut prier comme on est. Il n'y a pas forcément de méthode particulière, même si parfois de suivre une trame peut effectivement nous aider. On peut prier où on veut. Il n'y a pas d'endroit réservé. On n'est pas obligé d'attendre le dimanche ou d'attendre la cellule du mardi soir pour enfin pouvoir prier. On peut prier comme la simplicité de passer un moment privilégié avec notre Père. On peut le faire seul. On peut le faire aussi en communauté. C'est ce qu'on fait dans les 1000 heures de prière. On se rassemble ensemble. On peut prier continuellement car c'est un cœur avec Dieu. Ça veut dire que je peux prier quand je fais la cuisine. Ça compte ou ça compte pas? Quand je suis à genoux dans ma chambre, les yeux fermés, je peux prier. Je peux prier quand je marche dans la rue ou dans la forêt, les yeux ouverts, à contempler la création du Créateur. Je peux prier quand je suis au volant de ma voiture dans les bouchons de la rocade, en faisant attention quand même à la route. Des yeux ouverts, dans ce cas-là, ça peut aider. Je peux prier en toutes circonstances, car Dieu est présent par le Saint-Esprit. Mais les disciples, vous savez, ils ne comprenaient pas encore cette réalité. Ils sont tristes parce que Jésus part. Si on est honnête entre nous ce matin, est-ce que ça nous est déjà arrivé de penser cela ? De nous dire « je préférerais avoir le défenseur Jésus à mes côtés physiquement que l'autre défenseur, l'Esprit, qui pourtant vit en nous. » C'est une promesse tellement belle et qu'il nous faut retrouver. Parce qu'en fait, notre vie de prière est uniquement possible grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Et parfois, vous savez, on a négligé la personne du Saint-Esprit. Même de dire ce mot, parfois, nous fait peur. On a pu voir dans certains courants d'église des dérives où on met en avant plus les dons qu'attribue l'Esprit, plus que le Saint-Esprit lui-même comme étant le don, le cadeau, la promesse. Mais la réponse n'est pas non plus d'enterrer le don, plutôt de comprendre à sa juste place. Parfois, certains disent un peu cette blague, mais ce n'est pas vraiment une blague, que malheureusement la Trinité évangélique est parfois devenue Dieu le Père, Dieu le Fils et la Bible. Je ne dis pas que la Bible n'est pas bonne, et vous le verrez dans le deuxième point, c'est justement une raison de nous réjouir parce que Dieu nous parle par elle. Mais la parole de Dieu nous pointe justement vers le Dieu trinitaire. Elle nous pointe vers l'œuvre de Jésus. Elle nous pointe vers le Père, qu'on puisse le connaître davantage. Dieu nous aime comme un Père. Jésus le dit encore dans ce passage. Mon Père l'aimera. Il nous a adoptés en Christ. Il a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'apôtre Paul dit cela en Romains 5. Déverser dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car c'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre cette relation intime et privilégiée avec Dieu notre Père Céleste pour tous ceux qui croient dans l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Cela est une promesse réelle aujourd'hui. Première raison de se réjouir, l'intimité avec notre Père Céleste. Deuxième raison de nous réjouir, la révélation de sa parole. Regardez avec moi au verset 25 et 26. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Ici, le Saint-Esprit nous permet une pleine révélation de la parole de Dieu et je vous propose de le voir de trois manières. La première manière est vraiment celle sur laquelle ce passage-là de Jean se penche. En fait, ici, Jean est en train de dire au premier lecteur de l'Évangile que la parole du Nouveau Testament, la parole de Dieu, est inspirée par le Saint-Esprit. L'inspiration des Écritures. Quand il dit « Le défenseur, l'Esprit Saint que mon Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il s'adresse particulièrement aux 11 disciples. Vous vous souvenez, au chapitre 13, Judas est déjà parti plus tôt dans la soirée pour trahir Jésus. Les 11 disciples qui restent, ils n'ont pas tout compris aux enseignements de Jésus. Et Jean, dans son évangile, a été très honnête. Il en faisait partie et il raconte à plusieurs reprises que les disciples n'avaient pas saisi l'enseignement des paraboles de Jésus, par exemple. Mais le Saint-Esprit, cet autre défenseur, va avoir cette fonction particulière. Il va permettre aux apôtres d'avoir l'inspiration de l'Esprit pour se rappeler les paroles, les enseignements de Jésus, auprès du champ, sur la barque, dans la maison de Lazare, tout ce qui s'est passé pendant 3 ans. C'est miraculeux qu'ils aient pu se souvenir de ce qui se passait, de ce que Jésus a dit, et qu'ils puissent le retransmettre pour que nous ayons tous aujourd'hui la révélation de sa parole. Si on a accès aujourd'hui à la Bible, c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Si ce n'est pas un cadeau, ça, je ne sais pas ce que c'est. Jean, il veut le rappeler au premier lecteur que cet évangile est inspiré et qu'on peut en avoir confiance. Cela s'est vraiment déroulé et Jésus est vraiment l'auteur de notre salut. Mais peut-être pour nous, il y a une deuxième manière dont ça peut s'appliquer. Donc il y a l'inspiration des Écritures pour les auteurs du Nouveau Testament, et on sait qu'elle est inspirée de Dieu, mais aussi la compréhension des Écritures. Bien d'autres textes dans la Bible nous disent que, de nos jours, pour comprendre la parole de Dieu, on peut la comprendre spirituellement parce que l'Esprit Saint vient éclairer nos cœurs, illumine nos cœurs, pour qu'on puisse comprendre. Peut-être c'est votre histoire, moi c'est la mienne. Pendant 19 ans, j'étais dans l'église tous les dimanches, mes parents étaient chrétiens. Et pourtant c'est à l'âge de 19 ans où mon cœur s'est éclairé et j'ai enfin compris l'évangile que Jésus même, qu'il est mort sur la croix pour moi, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a demandé, avant de commencer ce message, « Seigneur, donne-nous une parole pour notre cœur, qui puisse ouvrir notre cœur à sa parole et nous parler par le Saint-Esprit. » D'ailleurs, au verset 17, Jésus parle de l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter. Et au verset 22, Jude, ici, il ne comprend pas. Il dit « Seigneur, comment se fait-il, tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Vous savez que quand Jean utilise le mot « monde », il ne parle pas juste de la terre, mais de tout ce qui représente un peu la rébellion contre Dieu. Il se fait connaître à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui veulent finalement le connaître. Car sans l'Esprit de vérité, impossible de connaître Dieu. Impossible de comprendre pleinement qui est Jésus. Même de comprendre la signification profonde de ses enseignements. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre dans notre cœur les vérités de l'Évangile. Et finalement, le Saint-Esprit nous permet aussi une vie transformée par les Écritures. Plusieurs fois dans le texte, vous aurez remarqué la phrase « Si vous m'aimez, respectez mes commandements » au verset 15, 21, 24. Ici, Jean n'est pas en train de dire qu'en observant les commandements, on gagne l'amour de Dieu, bien entendu. Mais plutôt, quand il dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements », veut dire qu'on le reconnaît un disciple à son amour pour Jésus, et cet amour se caractérise par l'obéissance. En gros, si un disciple aime Jésus, il va vouloir lui obéir. Mais cette obéissance est possible uniquement par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On n'a pas la capacité d'obéir au commandement de Dieu par nos propres forces. Si vous pensez encore pouvoir le faire, demandez aux gens qui vous sont proches, et puis ils vous diront que peut-être vous n'êtes pas aussi bon que vous pensez l'être. Jésus va même au point de dire au verset 28, comme s'il reprenait un peu ses disciples, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. » Vous vous réjouiriez. Le Saint-Esprit peut transformer notre cœur, que ce qui réjouit son cœur réjouisse le nôtre. Oui, Jésus qui s'est humilié est venu sur terre, est sur le point de retourner en gloire à la droite du Père. Si on aime Jésus, on se réjouit qu'il est glorifié, qu'il est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, qu'il règne sur toute la création. Et ce qui brise son cœur brisera aussi le nôtre, car le Saint-Esprit nous permet une pleine révélation de la parole de Dieu. Alors comment est-ce que cela peut nous encourager dans notre vie de prière? Peut-être vous avez vu sur les signets ici, louer, confesser, remercier, intercéder. C'est un petit guide qui peut nous aider quand on ne sait pas forcément comment commencer la conversation avec notre Père Céleste. Ben peut-être qu'un exemple concret pourrait être justement, si on a la révélation de la parole de Dieu, de prier en réponse à la parole de Dieu. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Ce matin, on pourrait commencer en louant Dieu. « Seigneur, tu es grand, tu t'es fait connaître à nous de manière intime par le Saint-Esprit. » On pourrait confesser pardon quand j'ai négligé ma relation intime avec toi, ou même négligé le Saint-Esprit. On pourrait être reconnaissant ensuite en disant merci car nous ne sommes pas seuls. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qu'on peut lire encore aujourd'hui. Et peut-être ensuite intercéder. Seigneur, permets qu'on grandisse dans l'intimité avec toi, dans ta parole. Et qu'en tant qu'Église, on puisse te connaître davantage et être connus comme des personnes qui t'aimons et qui nous aimions les uns les autres. Ce qui est bien quand on prie les Écritures, c'est qu'on n'est jamais à court de sujets de prière. Jamais à court. Et nos sujets de prière peuvent se renouveler. Parce qu'on va lire un texte sur une certaine thématique qui va nous interpeller. Et on va pouvoir prier ces vérités pour notre vie, pour la vie des autres et remercier Dieu. Ça va, vous suivez toujours ? L'intimité avec Dieu, j'espère que ça nous réjouit au fond du cœur. La révélation de sa parole et sa paix profonde. Versets 27 et 29. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jésus s'adresse aux disciples, rappelez-vous, quelques heures avant d'être livré, faussement accusé, condamné et crucifié sur une croix dans l'incompréhension totale pour les disciples. Les disciples vont avoir peur pendant tous ces événements qui vont se dérouler. La trahison de l'un des leurs, l'arrestation de leur maître, le semblant de procès, la crucifixion. Et ensuite, dans les semaines et mois et années qui suivent, la persécution pour leur foi. Mais Jésus, ici, avant son départ, leur promet la paix, il leur promet même sa paix. Et la paix dont il parle ici est différente de celle que le monde peut offrir. Jésus le dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix du monde est temporaire. La paix de Jésus, elle, est éternelle lorsqu'on est réconcilié avec Dieu. Paul le dit dans l'Évangile aux Romains. Ainsi donc, déclaré juste, par la grâce, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Sa paix est éternelle, elle est relationnelle même, parce qu'on est en paix avec lui. La paix que le monde donne est temporaire, elle est éternelle avec Dieu. La paix que le monde donne est basée sur les circonstances. La paix de Jésus est accessible malgré les circonstances, car elle est basée sur une espérance plus grande. La paix de Jésus n'est pas simplement l'absence de conflit ou de difficulté. Ça, c'est la définition du monde de la paix. Non, la paix de Jésus est une paix non superficielle, mais est une paix profonde. Même quand nos cœurs sont agités, ils peuvent goûter à cette paix du ciel. La paix de Jésus, effectivement, n'est pas une paix qui vient du monde, mais une paix du ciel. Elle est dans un sens transcendante, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de nous, elle ne vient pas de nos circonstances, mais elle vient de Dieu lui-même. Jésus offre sa paix alors que nous attendons son retour, la maison du Père, et vivons dans un monde qui est encore, comme il le dit ici, sous la domination temporaire de Satan, le prince de ce monde. C'est vrai, il y aura des tensions entre ce qu'on appelle le « déjà » et le « pas encore ». Vous avez peut-être déjà entendu ça ? Par le Saint-Esprit, nous vivons déjà une relation intime avec Dieu notre Père, mais pas encore dans sa maison au ciel. Nous sommes déjà sauvés, pas encore au ciel, déjà enfants de Dieu, pas encore l'adoption finale, déjà une relation intime avec Dieu, mais pas encore face à face. C'est par la foi qu'on le vit, mais dans les temps dans lesquels nous vivons, Jésus ne nous laisse pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, il nous offre sa paix comme un avant-goût du ciel. Comment mettre en pratique cette vérité dans notre vie de prière ? Pour pas peut-être que ça reste juste une belle parole que l'on entend, mais dans nos temps d'incertitude et d'incompréhension, qu'elle nous semble trop lointaine. Je vous propose de lire deux versets que l'apôtre Paul a écrits dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Parfois des versets que l'on connaît bien dans les églises, peut-être parce que justement ils nous encouragent. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous pouvons faire de nos inquiétudes des sujets de prière, c'est ce que dit Paul. Nous pouvons transformer, dans un sens, nos inquiétudes comme une opportunité d'avoir un sujet de prière à apporter au Père. Je vous propose que peut-être pendant ces 1000 heures de prière, on puisse prendre l'habitude d'apporter nos inquiétudes à Christ. Parce que lorsqu'on apporte nos inquiétudes à Christ, elles ne prennent pas racine en nous. Sa paix qui dépasse l'intelligence nous rappelle que nous vivons pour une espérance qui dépasse les circonstances difficiles que nous vivons. Et seulement sa paix nous permet de lever les yeux et de le voir. Parce que dans les circonstances les plus difficiles, notre réaction humaine est normale, c'est de regarder à nos circonstances, à nos difficultés, et ce n'est pas ça qui va nous apporter la paix. Mais le Seigneur nous appelle à lever nos yeux et à regarder l'espérance qui est attachée à son appel. De nous rappeler que notre vie ici est temporaire, qu'au ciel, une place dans la demeure du Père nous est préparée, et que maintenant, alors que je vis les tribulations, peut-être aux causes de ma foi, peut-être aux causes de difficultés, peut-être aux causes de la santé ou d'autres, eh bien je sais que je peux faire appel à lui pour que sa paix vienne prendre place dans mon cœur. Et cette prière-là, on peut la faire continuellement. Ça ne veut pas dire qu'on la fait un jour et que sa paix va régner continuellement. Mais on peut la faire un jour et puis peut-être la seconde d'après, la minute d'après, l'heure suivante, 2 semaines après. Mais quand l'inquiétude surgit dans nos cœurs, nous pouvons en faire un sujet de prière et nous rappeler cette merveilleuse promesse. Lorsque je suis inquiet, c'est l'occasion de prier, d'apporter mon inquiétude au Père. Et les 1000 heures de prière seront l'occasion pour nous, les uns les autres, d'apporter ensemble nos inquiétudes au Père et de lui demander que sa paix règne dans nos cœurs. Nous réjouir parce que le Saint-Esprit est venu. On peut se réjouir pour 3 raisons, il y en a beaucoup d'autres, mais ce texte nous en montre au moins 3. Nous pouvons vivre une vie d'intimité avec Dieu notre Père. Cela casse tous les codes de ce que le monde pense comme étant la religion. C'est une relation personnelle avec Dieu. Nous avons aussi la révélation de sa parole. Dieu nous parle. Et aujourd'hui, nous pouvons être sûrs de l'inspiration de la Bible quand nous la lisons. C'est la parole de Dieu. Et les paroles qu'on a prononcées aujourd'hui n'ont pas été inventées par les disciples. Mais quand Jésus dit « Je vous donne ma paix, je vous donne ma paix », c'est les paroles qui sont sorties de sa bouche. Et il peut nous donner sa paix profonde, qui est une œuvre surnaturelle que lui seul peut faire. En guise de conclusion, je vous propose de lire juste les derniers versets, parce que il y a un rappel qui est important ici. Jean 14, versets 29 et 31. Verset 29. « Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. » Pour quelle raison ? « Afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Tout l'évangile de Jean a été écrit dans ce but premier. Quand on lise les Écritures et quand on lise les enseignements de Jésus, sa mort, sa résurrection, cette promesse du Saint-Esprit, on puisse effectivement croire qu'il est le sauveur du monde et être restauré dans notre relation avec lui. Alors permettez-moi quand même de vous poser cette question personnelle. Parce que moi, j'ai passé 19 ans dans une église avant de le connaître personnellement. As-tu déjà rendu les clés de ta vie à Jésus-Christ ? C'est vraiment sérieux. As-tu déjà donné la seigneurie de ta vie, le règne de ta vie à Jésus? Jésus a dit cela afin que l'on croie. Et permettez-moi de vous encourager à cela. Si vous n'avez jamais donné les clés de votre vie en disant « Jésus, tu es vraiment Dieu, le Sauveur. C'est toi qui sais ce qui est le mieux pour moi. J'ai péché contre toi, j'ai voulu marcher loin de toi alors que tu fais la promesse que tu veux vivre en nous. Tu nous prépares une place dans ta maison. » Et moi, j'ai refusé cela. Permettez-moi de vous encourager à accepter son plein pardon pour vos péchés et recevoir son Saint-Esprit, à ne pas tarder et le faire ce matin. C'est aussi simple qu'une prière, aussi simple que dans le fond de son cœur, dire pardon et merci. Notre Père, pardon, parce que j'ai négligé de te connaître, j'ai marché loin de toi, je mérite d'être séparé de toi pour l'éternité, mais merci, merci pour Jésus-Christ, merci pour la croix, merci pour cette promesse du Saint-Esprit et tu dis que tu veux venir me pardonner, vivre en moi et préparer une place assurée dans la maison du Père. Seigneur, fais cette œuvre dans mon cœur. Et je vous encourage vraiment, si vous n'avez jamais fait cette démarche, ou peut-être vous l'avez fait il y a un certain temps et vous êtes écarté de Dieu, vous avez négligé cette intimité avec lui, il n'est jamais trop tard pour simplement lui dire, Seigneur, ton pardon, je le désire, ta grâce, je la veux, j'en ai besoin, je ne peux pas vivre sans elle. Je ne veux pas la paix temporaire que le monde veut donner, mais je veux la paix profonde, d'être assuré pour l'éternité de vivre dans ta maison. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Prions.